Bonjour à chacun. C'est une joie de se retrouver ensemble ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer en priant. Père Céleste, quel privilège d'être là ce matin. Quel privilège de nous retrouver en famille. Quel privilège d'être à tes pieds, Seigneur. D'écouter ta parole. Nous prions que tu nous illumines par ton esprit pour que nous puissions la comprendre et pour que nous puissions la recevoir pour l'appliquer. Seigneur, nous prions que tu nous aides dans ta grâce à refléter ta sainteté et à refléter ton amour. Que nous puissions, comme des enfants obéissants, montrer qui est notre Père. Amen. On continue notre série sur la première lettre de Pierre depuis la semaine dernière. Et c'est une lettre qui nous parle pas particulièrement encore aujourd'hui parce qu'elle répond à des questions que tout le monde se pose. Elle répond à la question sur comment articuler la souffrance et la volonté de Dieu. Elle répond à comment réagir face à l'injustice que je vis dans ma famille peut-être, dans mon travail, avec mes voisins, même dans l'église. Comment connecter la vérité de l'évangile face à la réalité de la souffrance? Toutes ces questions-là, l'épître de 1 Pierre y répond. Et pendant quelques semaines, on va réfléchir à comment on peut vivre de manière juste dans un monde injuste. Comment on peut vivre en exil dans un monde hostile? Je vous invite à ouvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, vos Bibles à la première lettre de Pierre. Je vais lire à partir du verset 13 du premier chapitre jusqu'au verset 3 du deuxième chapitre. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce matin, ensemble, je vous propose qu'on se pose la question, à partir de ce texte, comment vivre l'obéissance au sein de l'épreuve. Et le texte commence par « c'est pourquoi ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, « c'est pourquoi ». Et par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, ce que Jean-Jacques nous a apporté sur ce qui précédait, et ce « c'est pourquoi », on peut voir déjà deux choses. La première, c'est que l'Évangile ne nous laisse pas inactifs. Jean-Jacques, la dernière fois, a introduit un Pierre, il disait que la lettre était un encouragement fait d'impératifs à se saisir des promesses de Dieu au milieu des épreuves. Et dès le début du texte, ici, Pierre nous demande de ceindre les reins de notre entendement. C'est un peu bizarre. Il reprend une image où, en fait, à l'époque, il ne portait pas des jeans et des chemises, mais plutôt des vêtements longs qui couvraient tout le corps. Et pour toute activité physique, il devait se serrer la ceinture, en tout cas en mettre une, et parfois même remonter le bas de leurs vêtements et le coincer dans la ceinture pour pouvoir effectuer des tâches physiques, pour pouvoir courir. Et c'est la même chose qu'il dit là, Pierre. Si on devait traduire par une expression équivalente aujourd'hui, on dirait « que votre esprit se retrousse les manches ». Que votre esprit se retrousse les manches. L'Évangile nous engage et il se vit en action. La deuxième chose qu'on peut remarquer dès l'entrée du texte, c'est que l'indicatif de la grâce de Dieu précède l'impératif des commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que la semaine dernière, Jean-Jacques nous a montré comment Pierre commence sa lettre avec l'adoration. Pierre, il ouvre sa lettre en disant combien Dieu est grand et combien son évangile est beau. Et il montre la beauté du plan de salut de Dieu et de son œuvre avant de parler d'exhortation, avant de dire les conséquences pour ceux à qui il écrit. Il nous rappelle dès le début de la lettre que ce que nous faisons est toujours la conséquence de ce que Dieu a fait. C'est ça la dynamique de la grâce. Et c'est ce qu'on a vu aussi la dernière fois avec l'Exode. Souvenez-vous, quand le peuple est délivré hors d'Égypte, qu'il arrive au pied du mont Sinaï, la phrase qui introduit les 10 paroles, les 10 commandements de Dieu, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu rappelle qui il est et Dieu rappelle sa grâce avant de demander notre obéissance parce que l'obéissance vient toujours après la délivrance, toujours après la délivrance. Et Pierre, il nous exhorte à avoir toute notre espérance, à mettre toute notre espérance dans la grâce qui sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En fait, au milieu de l'épreuve, Pierre nous appelle à lever les yeux. Il nous appelle à nous rappeler que l'épreuve finira avec le retour de Christ. Qu'un jour, l'épreuve s'arrêtera. Et que nous devons tenir ferme en l'attendant. C'est le titre de notre série dans 1 Pierre, tenir ferme en l'attendant. Et cette espérance, on va le voir dans ce verset qui sert de charnière, en fait. Il conclut la partie qui vient juste avant et puis il ouvre la partie de ce matin. Cette espérance, elle nous donne confiance. On sait que Dieu va nous délivrer. Et cette espérance, elle nous invite aussi à vivre avec sobriété. C'est un terme qui revient plusieurs fois dans le livre de 1 Pierre. Cette espérance, elle nous invite avoir une conduite sainte. Comment mettre cette grâce en action? Comment obéir après la grâce qui nous a été présentée? Et Pierre nous donne deux pistes dans le texte qu'on a lu ce matin, deux pistes que j'aimerais voir avec vous. La première, c'est grandir dans la sainteté grâce à la croix. Les versets 13 à 21. Grandir dans la sainteté grâce à la croix. Et la deuxième, c'est grandir dans l'amour grâce à la parole, à partir du verset 22. Et on voit dans ce texte, en fait, quelque chose que l'on remarque souvent, c'est la dimension à la fois verticale, le rapport à Dieu, et la dimension horizontale, le rapport aux autres. Et on retrouve la formule de base de la grâce, aimer Dieu et aimer son prochain. Première partie, grandir dans la sainteté grâce à la croix. Pierre nous appelle à la sainteté très vite dans sa lettre. Il parle des épreuves, il bénit Dieu pour la beauté du plan de son salut, et directement après, il nous parle de la sainteté. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'épreuve nous pousse au péché. Et il sait qu'à cause du péché, on va préférer céder à la colère plutôt que faire preuve de patience. À cause du péché, on va préférer céder à la paresse plutôt qu'honorer nos responsabilités. À cause du péché, on va préférer céder à la pornographie plutôt que vivre la frustration. À cause du péché, on va préférer céder à la vengeance plutôt que vivre le pardon. Mais Pierre nous invite dans l'épreuve à avoir une conduite sainte. Et pour cela, il nous donne plusieurs raisons. La première que l'on voit dans le texte, c'est qu'il dit « Nous ne sommes plus ce que nous étions ». J'ai toujours aimé, en tout cas toujours trouvé assez remarquable, impressionnant les images avant-après. Vous savez, c'est les images soit pour vous vendre un nouveau polish de voiture, soit pour vous vendre un nouveau programme de minceur ou programme de musculation, et mettre une image avant-après, on dit oh, « Moi, je suis plutôt comme le avant, là, mais j'aimerais bien être comme le après. » Pierre, il fait un peu la même chose. Il fait le contraste entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Et il dit « Avant, vous étiez ignorants, mais maintenant, vous connaissez Dieu. » Alors pourquoi vivre comme avant? Avant, vous aviez une conduite futile, vaine. Mais maintenant, votre conduite doit être sainte. Je suis en train de lire un livre. Je vais le formuler autrement parce qu'on dirait que c'est quelque chose d'actif. J'ai commencé un livre qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre... Dans quelques cercles, on a beaucoup parlé. Ça parle de comment changer ses habitudes. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans le livre. Beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, que je trouve vraiment bien vues. Et bien sûr, beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et une des idées intéressantes du livre, c'est que l'auteur, il fait le lien entre nos habitudes et notre identité. Il y a un des trucs forts qu'il dit, c'est qu'il y a deux manières d'adopter de nouvelles habitudes. Soit en se concentrant sur ce que nous voulons faire ou nous voulons changer, soit en se concentrant sur qui nous voulons être. Et il dit, un véritable changement de comportement est un changement d'identité. On finit par devenir ce que l'on répète. Le moyen le plus pratique de changer qui nous sommes est de changer ce que nous faisons. En gros, il dit, on devient ce que l'on répète. Et ça, vous trouvez ça dans tous les articles de développement personnel, de productivité, comment s'améliorer, etc. Et ce n'est pas nouveau, en fait. Aristote disait exactement la même chose au 4e siècle avant Jésus-Christ, comme quoi rien de nouveau sous le soleil. Et donc l'idée de cet auteur, c'est au lieu de dire, tiens, je veux commencer à écrire et je vais me fixer un objectif d'écrire chaque jour, c'est de se mettre en tête que l'on est un auteur et de commencer à agir en tant que tel. Décider de qui on veut être et agir en conséquence. Et l'auteur a raison. Il y a un lien entre nos habitudes et notre identité. Mais ce matin, dans le texte qu'on lit, Pierre dit l'inverse. Le livre dit « Changez ce que vous faites et vous changerez qui vous êtes ». Pierre, ce matin, nous rappelle « Vous êtes de nouvelles personnes ». Alors agissez en conséquence. Et la dynamique de l'évangile, c'est que nous avons besoin que Dieu nous change, nous avons besoin que Dieu nous transforme pour changer ce que nous faisons. Parce que changer nos habitudes ne changera pas notre identité. En revanche, quand Dieu nous donne une nouvelle identité, alors nos habitudes changent. Pierre nous rappelle que Dieu nous a transformés. Il nous rappelle que nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Et que par conséquent, il faut ajuster ce que nous faisons à qui nous sommes. Deuxième motivation, soulevée par Pierre. Notre Père céleste est saint. Et Pierre dresse encore un contraste. Il dit, vous aviez hérité de vos pères terrestres une conduite futile. Maintenant, il faut adopter la conduite sainte de notre Père céleste. Ne plus ressembler à ce que nous étions par nos pères terrestres, mais ressembler à notre Père céleste. Comme des enfants obéissants, il dit au début du verset 14, « Nous devons être saints comme notre Père est saint. » Et Pierre cite le livre du Lévitique, qui a été écrit alors que le peuple est dans le désert. C'est juste après la fin de l'Exode. Vraiment juste après la fin de notre dernière série de prédications. Et on a vu dans l'Exode la manière dont Moïse décrit Dieu qui a délivré son peuple pour qu'il soit saint. Le but de Dieu, quand il nous délivre, c'est qu'on lui ressemble. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se conforme à son caractère. Et Pierre nous dit que c'est toute notre conduite qui doit changer. J'ajoute pas Dieu dans ma vie. Je ne mets pas Dieu comme je mettrais de la cannelle sur une tarte aux pommes, un peu au-dessus, pour donner un bon goût. Mais c'est toute notre conduite qui est transformée. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Et ici, Pierre, il va plus loin que le fait juste de dire que notre obéissance suit notre délivrance. Il dit en fait, c'est quelque chose de plus profond. Notre sainteté, notre obéissance, elle est liée à notre identité. Elle est liée à qui nous sommes. On m'a rappelé il n'y a pas longtemps qu'un enfant reproduit ce que fait son père, de manière presque automatique. Ce qui m'a mis un peu la pression pour les 60 prochaines années. En fait, je vais vivre quelque chose que je savais déjà. J'ai travaillé pendant de nombreuses années, de manière un peu intermittente, dans un centre de loisirs. Et c'est fou. Quand on regarde les enfants, on n'est pas étonné quand on voit les parents après. Souvent, pas toujours, heureusement. En bien ou en mal d'ailleurs. Mais quand on voit les enfants, on voit les parents derrière. Et c'est ce que dit Pierre ici. Il dit, quand on vous regarde, on devrait voir votre Père céleste. Quand on voit votre sainteté, on devrait voir la sainteté de votre Père. Et la manière d'imiter notre Père, c'est de lever les yeux à lui et de faire ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on a chanté, « Nous voulons te ressembler, Seigneur ». Troisième raison que Pierre donne, nous avons été rachetés par le sang de Christ. C'est même la raison principale dans le passage de Pierre. Au verset 18, il dit « Vous savez en effet ». Pierre nous rappelle « Vous savez en effet, vous avez été rachetés, vous avez été délivrés de votre ancienne manière de vivre. » Et ce mot particulier du rachat, dans les vieilles versions, peut-être certains, vous avez été rédemptés, rédimés. En fait, ça veut dire racheter. Et derrière cette idée de rachat, il y a l'idée de délivrance. C'est l'idée que quelqu'un a payé pour nous délivrer d'un esclavage. C'est exactement ce qu'on avait vu dans le livre de l'Exode, où Dieu nous rachète, nous délivre de l'esclavage. Et ici, Pierre nous dit, vous n'êtes plus esclaves de votre ancienne manière de vivre. Vous avez été délivrés. Et il cite Ésaïe ici. Et Pierre nous dit, c'est pas par de l'argent ou c'est pas par de l'or. C'est par quelque chose de beaucoup plus précieux. Par quelque chose que personne d'autre que Dieu lui-même n'aurait pu payer. Jésus a payé un prix que personne n'aurait pu payer. Un prix plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Pierre nous dit que c'est le prix du sang de l'agneau. Et c'est ce sang, nous dit Pierre, cette mort à la croix, qui nous délivre, qui nous libère de ce que nous étions et qui nous fait devenir enfants de Dieu. Et versets 20 et 21, Pierre ajoute quelque chose. Il dit, Jésus était destiné à la croix avant la fondation du monde. Pierre nous dit, la mort de Jésus à la croix, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un plan B. C'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Et Pierre nous rappelle encore, comme on l'a vu la dernière fois, et comme on le verra tout au long de la lettre, que tout ce qui nous arrive fait partie de la volonté de Dieu. Si Christ est mort, c'est parce que Dieu l'avait décidé avant la fondation du monde. Et c'est la même expression désignée d'avance que l'on a rencontrée la semaine dernière, quand Pierre parlait des chrétiens qui ont été désignés d'avance pour être consacrés à Dieu. Tout ce qui arrive témoigne de la volonté souveraine de Dieu. Et on voit dans sa providence que Dieu agit pour que tout accomplisse son plan. Bien sûr, c'est un mystère. On ne comprend pas comment ce qui arrive de mal peut concourir au bien que Dieu a décidé. Mais pourtant, c'est ce que la Bible affirme avec force et avec clarté. Mais ce mystère, il nous donne confiance, parce que Dieu est au contrôle, parce que rien n'arrive par hasard, et parce que tout ce qui arrive est le fruit de sa volonté, et qu'à la fin, nous sommes entre ses mains paternelles, et que tout ce qui arrive au niveau international, national, ou tout ce qui arrive dans l'Église ou dans ma propre vie est le résultat de la volonté de Dieu. Et ce mystère nous rassure parce que Dieu est au contrôle. Deuxième partie, à partir du verset 22, grandir dans l'amour grâce à la parole. Grandir dans l'amour grâce à la parole. On l'a vu dans la première partie, Pierre nous appelle à la sainteté parce que l'épreuve nous pousse au péché. Et ici, Pierre nous appelle à l'amour parce que l'épreuve nous pousse à l'égoïsme et à l'isolement. À cause du péché, on préfère faire passer nos intérêts avant les autres, on préfère nous assurer de notre bien-être avant celui des autres. Dans l'Église, on préfère être seul que mal accompagné. Et on voit dans ce texte encore ce matin que le péché brise notre relation avec Dieu et que le péché brise notre relation avec les autres. Et parfois, on entend des hiérarchies dans les discours bibliques. Une fois, j'étais invité dans une journée de travail avec des responsables chrétiens de toute la France. Il y a un des responsables très connu qui m'a demandé, non sans ironie, « Mathieu, le plus important pour toi, c'est quoi ? La connaissance ou l'amour ?» Pierre, dans notre texte, il n'oppose pas ce qui va ensemble. Il dit « Nous n'avons pas à choisir entre la sainteté ou l'amour. » Pourquoi ? Parce que les deux sont la marque d'une vie transformée par Dieu. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Et nous aimons parce que Dieu est amour. Et Pierre même, il fait un lien entre les deux. Regardez au verset 22. « Comme vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité, en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur. » Pierre, il établit un lien entre notre consécration, entre notre purification, entre notre sainteté et l'amour qu'on doit porter à nos frères et sœurs. Il dit même, il va plus loin, il dit que l'amour, c'est le but de notre obéissance. Et quelque part, il dit qu'obéir à la vérité, c'est aimer son frère. Obéir à la vérité, c'est aimer son frère. Et c'est tout ce que nous dit toute la Bible. Jésus dans ses propres mots, Paul dans les siens, Pierre ici ou Jean. Jean dira, personne ne peut dire qu'il aime Dieu alors qu'il déteste son frère. Aucun sens. Obéir à la vérité, c'est aimer son frère. Et parfois, on a une image un peu sentimentale de l'amour, faite de bons sentiments, avec une odeur de bougie à la vanille. Mais ici, Pierre nous rappelle que l'amour, c'est pas juste des sentiments. Il nous rappelle que l'amour, c'est traiter les autres comme Dieu nous traite. Que l'amour se vit en action. Et que si Dieu nous demande d'aimer, nous commande d'aimer, je ne vais pas attendre d'aimer les autres pour obéir à Dieu, je vais obéir à Dieu pour aimer les autres. Et cet amour, c'est un amour qui se vit en action. C'est un amour qui se vit de manière intentionnelle. C'est un amour qui se vit en mettant des choses concrètes en place. Et Pierre, il utilise deux qualificatifs pour parler de cet amour. Il dit, il doit être sincère et il doit être ardent. Il doit être sincère et il doit être ardent. Et dans la fin du texte, il nous rappelle deux vérités pour nous aider à vivre cet amour. La première, c'est que la parole est la source de notre nouvelle naissance. Et au verset 18, il avait dit, vous savez en effet... Et là, il va encore rappeler quelque chose au verset 23. « Vous êtes en effet... » La première fois, pour parler de la sainteté, il avait dit « Vous savez en effet que vous avez été rachetés. » Et ici, il rappelle « Vous êtes en effet nés de nouveau. » Vous êtes nés de nouveau. Vous avez une nouvelle vie. Et Pierre nous dit, cette nouvelle vie, elle se manifeste par l'amour fraternel. Et encore une fois, Pierre nous invite à vivre ce que nous sommes déjà. Ce que nous sommes déjà. Et Pierre reprend cette image et ce contraste entre la semence périssable, la semence qui pourrit, et une semence incorruptible. Et dit, cette nouvelle naissance, vous la devez à une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole-là, précise Pierre, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. C'est l'évangile qui vous a fait naître de nouveau. C'est l'évangile qui est la source de notre vie. Et il cite Ésaïe. Il cite Ésaïe pour montrer quelque chose de très simple. Il dit, votre mort naturelle, votre vie naturelle finit toujours par la mort. Alors que cette vie nouvelle est éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est la parole vivante et permanente de Dieu qui vous a donné cette vie. Et de la même manière que la parole de Dieu est éternelle, votre vie est éternelle. Et ça, ça devait résonner fort dans les lecteurs, pour les lecteurs de 1 Pierre. Ils étaient dans l'épreuve, ils vivaient la persécution. Et peut-être cela résonne particulièrement pour ceux aujourd'hui qui souffrent, ceux aujourd'hui qui sont dans l'épreuve, ceux qui vivent l'injustice, ceux qui sont accablés par la peine, par le deuil, par toutes sortes d'épreuves. Pierre rappelle que tout passe. Même la plus belle des fleurs finit par faner. Mais si tout passe, ce sera aussi le cas de nos épreuves. Elles finiront un jour par cesser, même si elles paraissent longues. Pierre nous redonne courage en regardant l'horizon. Il dit, un jour, cela finira. Il fait écho dans ses propres termes à ce que disait l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Nos souffrances passeront, mais notre vie, comme la parole de Dieu, est éternelle, permanente et vivante. Il y a quelque temps, je suis allé débarrasser les livres qu'il y avait chez mes parents, à leur grand bonheur. Et il y a pas mal de ces livres qui sont des livres genre Copain des Bois. Ça existe encore, Copain des Bois ? Oui. Classique. J'ai un livre qui s'appelle Méga Expérience. Ça se voit que c'est un livre des années 90. Et dans ce livre, Méga Expérience, vous avez deviné, il y a plein d'expériences. Comment fabriquer un petit moteur, comment fabriquer une éolienne, un hydromètre, que sais-je. Il y a une des expériences où on prend une soucoupe, un bol ou une assiette creuse, on la remplit d'eau et on la saupoudre de poivre. Et le poivre se dépose sur toute la surface de l'assiette. Et on met sur son doigt ou sur pic à brochette une goutte de liquide vaisselle. Quelqu'un a déjà fait cette expérience ? Non ? Ah voilà, ça sent la jeunesse là. Enfin, ça sent l'animation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on trempe le doigt dans l'assiette, tout le poivre s'écarte. Et ça, c'est impressionnant. Alors, je vous invite à le faire chez vous. La prochaine fois, on mettra une caméra avec une retransmission, je le ferai en direct. Mais faites-le chez vous et vous verrez par vous-même. Moi, je l'ai fait hier soir. Ça marche, toujours. Ah, je voulais montrer ça à Alexandra. Et Pierre, ici, il liste une série de comportements qui sont le résultat du péché et qui viennent semer la discorde là où devrait briller l'amour. Et en fait, on voit que le péché agit comme cette goutte de liquide vaisselle. Et qu'il vient séparer ce qui était uni. Et Pierre nous dit que le péché nous rend méchants, alors que l'amour nous appelle à la bonté. Que le péché nous plonge dans la ruse, alors que l'amour aime la transparence. Que le péché nous rend hypocrites, alors que l'amour aime la sincérité. Que le péché nous rend jaloux, alors que l'amour veut se réjouir pour l'autre. Que le péché nous rend médisants, alors que l'amour aime bénir. Aime bénir. Et toutes ces choses, nous dit Pierre, nous devons les rejeter. L'expression même, c'est qu'on doit s'en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Le péché isole et divise, alors que l'amour réunit. Le péché isole et divise, alors que l'amour réunit. Et encore une fois, la parole nous rappelle la dimension communautaire du péché. Mon péché finira toujours par affecter ceux qui m'entourent. Il y a quelque temps, dans l'église, c'était difficile de savoir à qui on pouvait faire la bise ou pas. Et il n'y a qu'en s'approchant que certains mettaient le coude, d'autres tournaient la tête. Pourquoi ? Parce qu'on voulait stopper l'épidémie. Parce qu'on sait que quand on a un rhume, une grippe ou que sais-je, on peut contaminer les autres. Mais on a moins conscience de la manière dont mon péché va finir par affecter les autres autour de moi, affecter ma famille, affecter mes collègues, affecter mon groupe de maison, affecter l'église en entier. Notre péché ne concerne jamais seulement nous. Il va toujours finir par affecter d'une manière ou d'une autre les autres. Deuxième chose, première chose, la parole est source de notre nouvelle naissance. Deuxième chose, la parole est source de notre croissance. Pierre, il file la métaphore, il la développe. Il parle des enfants nouveau-nés. Il dit, si l'on veut grandir en tant qu'enfant nouveau-né, verset 2, il nous faut aspirer au lait pur de la parole. La parole, source de notre naissance, est aussi source de notre croissance. Et Pierre nous rappelle avec force la centralité de l'évangile pour toute la vie. L'évangile, ce n'est pas qu'au début de la vie chrétienne. L'évangile, ce n'est pas juste quand on se convertit. L'évangile, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas juste une nouvelle que nous devons annoncer, même si Pierre le rappelle, mais c'est une bonne nouvelle que nous voulons vivre. Source de notre naissance et de notre croissance. C'est pour ça que, ensemble, dans cette église, on veut vraiment mettre la parole au centre de tout ce que nous faisons. À la maison, dans notre lecture personnelle, dans les groupes de maison, dans les échanges avec les frères et les sœurs. Le dimanche matin, quand on ouvre la parole, on veut mettre la parole au centre de tout ce que nous faisons, parce que c'est elle qui nous fait grandir. À la maison, il y a quelques livres sur l'allaitement. Si vous n'aviez pas compris, mon épouse est enceinte. Mes illustrations de prédication vont changer dans les années à venir. J'en ai ouvert quelques-uns pour me renseigner. Je ne vais pas allaiter, mais je voulais comprendre un peu. Je n'ai pas tout compris. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a rien de meilleur pour l'enfant que le lait maternel. Je n'irai pas plus loin, je sais que ce sujet déchaîne les passions parfois. Mais Pierre, il utilise cette métaphore ici, il dit « Comme le lait d'une mère, la parole du Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a rien de mieux que la parole du Seigneur pour nous faire grandir dans la foi et dans l'amour. C'est pas la parole qui nous fait grandir pour la sainteté et nos sentiments qui nous font grandir dans l'amour. C'est la parole qui nous fait grandir en sainteté et en amour. C'est la parole qui vient nous transformer, c'est la parole qui vient nous faire grandir, qui vient nous faire mûrir. Et c'est cette parole que nous avons goûtée, nous dit Pierre. C'est cette parole que nous goûtons jour après jour. C'est par cette parole que nous savons que notre Seigneur est bon. Le texte finit en citant le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Si vous avez goûté la bonté du Seigneur, le si, on peut et on devrait le traduire. Si en effet, ou puisque vous avez goûté la bonté du Seigneur. Puisque vous avez goûté la bonté du Seigneur dans sa parole, alors aspirons au lait pur de cette parole. Parce que c'est de cette bonté qu'on veut s'abreuver. C'est de cette bonté qu'on veut se nourrir jour après jour. En sachant que c'est cette bonté qui nous fait grandir. Et le contexte du psaume 34 est un contexte de délivrance. Où David, dans ce psaume, chante sa reconnaissance à Dieu qui l'a délivré. Et il veut reconnaître la bonté du Seigneur au milieu de sa délivrance. Et là, Pierre écrit à ceux qui sont en exil, ceux qui sont persécutés, et il leur rappelle la bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur qui nous délivre. La bonté du Seigneur qui nous a délivrés. La bonté du Seigneur qui nous conduit. La bonté du Seigneur qui nous délivrera une fois pour toutes lorsque Christ reviendra. La semaine dernière, j'étais à l'Institut biblique de Genève pour une session de travail avec quelques frères de l'Action biblique. Et j'étais dans une salle qui était l'ancien bureau de Pierre, le directeur. Dans cette salle, il y a une bibliothèque. Et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder tous les livres qu'il y avait dedans. Alors, il y a des livres, je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient là. Parce que c'était des livres de classe avec des photos de classe des années 60, dans une ville perdue des États-Unis. Mais il y avait un petit livre qui avait l'air très vieux et qui a attiré mon attention. Et j'ai commencé à l'ouvrir. Et en fait, c'était un livre de prières, des prières magnifiques. Et j'aimerais conclure en lisant une de ces prières qu'il y avait dans ce livre. Prions. Ô Dieu qui est le Saint des Saints, et la sainteté même, sanctifie-moi par ton esprit, afin que je sois en état d'entrer dans l'héritage préparé à tes saints, et de voir ta face, que l'on ne peut contempler sans la sanctification. Éclaire-moi de tes lumières qui procèdent de ton trône, afin que je découvre toutes les difformités du péché, et que je les déteste comme un monstre, comme une souillure abominable, qui a effacé ton image, comme le fardeau insupportable sous lequel toute la nature gémit, et comme le plus dangereux ennemi qui a crucifié le Seigneur de gloire. Fais-moi aussi remarquer les beautés de la sainteté, qui est un rayon de ta gloire et une partie de la félicité à laquelle j'aspire, afin que je désire avec ardeur d'être saint comme tu es saint. Arrache mon mauvais cœur et donne-moi un nouveau qui brûle d'un saint zèle et qui soit embrasé de ton amour. Crucifie cette misérable chair que je porte avec ses convoitises, afin que je ne vive plus moi, mais que ton Christ vive en moi et que toutes mes pensées, toutes mes paroles et toutes mes actions soient saintes. Que non seulement j'aborde les souillures du vice, mais que jaillisse même la souillure du moindre péché et que je m'abstienne de toute apparence de mal. Puisque ta grâce salutaire à tous les hommes m'est si clairement apparue, fais que, renonçant à toute impiété et aux convoitises mondaines, je vive sobrement et justement en attendant la bienheureuse apparition de ton cher Fils.
Amen.